Bonjour, je m'appelle Stéphanie Mailleux, donc je suis en postdoc à l'unité Ferlus, fourrage environnement ruminant de Lusignan. Je travaille sur le projet Oasis. Mon sujet a pour titre donc l'agroforesterie d'élevage pour des systèmes laitiers agroécologiques résilients face au changement climatique, des références pour pâturer les ligneux. Voilà, j'en suis à la fin de ma première année de postdoc. Donc, l'utilisation des fourrages ligneux est une pratique courante dans les pays du Sud où la ressource en eau est rare et pourrait devenir une pratique intéressante dans les pays de zones tempérées où la production de fourrages herbacés, qui constitue la principale source d'aliments pour les ruminants, est fortement affectée par le changement climatique. L'insertion des arbres comme ressources fourragères dans les exploitations pourrait améliorer donc la résilience des systèmes vis-à-vis des aléas climatiques, contribuer à l'autonomie fourragère des exploitations laitières en fournissant une ressource pâturable pendant les périodes de carence en été et en automne, renforcer l'approche agroécologique des systèmes laitiers, notamment en optimisant l'utilisation des ressources en eau, en éléments minéraux, et en optimisant l'utilisation de l'espace et également en diversifiant les espèces cultivées. Et la présence de composés secondaires intéressants pourrait également contribuer à améliorer les performances zootechniques, le bien-être et la santé des animaux. Donc, cependant, avant de promouvoir le développement de l'agroforesterie d'élevage, il subsiste un certain nombre de questions auxquelles il faut apporter des réponses qui concernent notamment le choix des espèces, donc quelles espèces choisir, donc les critères pour sélectionner les espèces intéressantes vont être la valeur fourragère, la résilience face au changement climatique, le potentiel de production ou l'adaptation au pâturage. Ensuite, comment implanter ces espèces, quelle organisation spatiale privilégier et quelles vont être les modalités d'exploitation des ligneux, c'est-à-dire à quelle saison et dans quelle proportion. Enfin, quel impact ces fourrages ligneux vont avoir sur donc la production, la santé et le bien-être des animaux, notamment il va falloir regarder l'effet des composés secondaires sur ces paramètres. Et enfin, quel impact va avoir l'implantation des arbres sur le milieu et également la consommation de ces fourrages ligneux. Alors moi, pendant mon postdoc, je ne vais pas m'intéresser à tous ces points. Je me suis focalisée cette première année sur trois points et probablement j'en développerai pas d'autres jusqu'à la fin de mon postdoc. Donc, je me suis intéressée à la valeur fourragère des fourrages ligneux, au potentiel de production au travers d'une étude en fait, sur une méthode pour quantifier la biomasse foliaire des arbres. Et également, j'ai fait un travail bibliographique sur les composés secondaires dans les feuilles qui répond en partie aux deux dernières questions posées. Alors, concernant la valeur alimentaire des ligneux, 50 espèces ont été analysées. Les feuilles de 50 espèces ont été analysées, collectées sur différents sites partout en France. Et elles ont été analysées donc, pour la digestibilité enzymatique, la teneur en matière azotée totale, en tanins, en fibres et en minéraux. Alors, ici, on a les résultats pour de la digestibilité en fonction de la matière, des matières azotées totales pour les 34 espèces les plus fréquentes en été. Et les prélèvements ont été faits de 2014 à 2016. Alors, la première chose qu'on observe, c'est qu'il y a une grande diversité de compositions chimiques. Et donc, les espèces les plus intéressantes, c'est celles qui vont avoir... celle qu'on retrouve en fait dans le carré qui est, enfin le rectangle qui est en haut à droite, qui contient donc plus, dont la digestibilité est supérieure à 75% et le taux de matière azotée est supérieur à 14%. Voilà. Donc, on retrouve donc le châtaignier, le frêne, le mûrier blanc, j'aurais dû citer en premier, le figuier, l'aulne également et la vigne aussi. Alors, on a regardé l'effet du mode de conduite. Donc, des feuilles ont été prélevées sur des arbres têtards et des arbres de Auger collectés donc sur le même site, à la même date, pour 8 espèces. Et ce qu'il ressort, c'est que la conduite en trogne diminue la matière sèche des feuilles et augmente la matière azotée totale et ne modifie pas la digestibilité, la teneur en tanins condensés ou en minéraux. On a également regardé donc l'effet de la saison. On observe sans surprise une augmentation de la matière sèche entre le mois de juin et le mois d'août et une diminution de la MAT, voilà, qui est liée, donc MAT, matière azotée totale, qui est liée à une dilution par rapport à la croissance des feuilles. Ensuite, concernant le travail de quantification de la biomasse foliaire, donc, nous avons travaillé sur. Ça a été l'objet d'un stage de fin d'études ingénieurs que j'ai co-encadré avec Ella Frac et Didier Combe de l'URP3F, et qui avait pour titre donc, l'adaptation du logiciel TriAnalyzer pour estimer la surface foliaire d'espèces ligneuses à partir de photos numériques. Voilà, donc ce logiciel permet, à partir de photos numériques, de reconstituer le houppier en 3 dimensions. À partir de cette reconstitution, on peut extraire la surface foliaire. Alors, on a travaillé sur des branches et sur des arbres, et on a obtenu sur les branches une bonne corrélation entre les surfaces estimées et les surfaces mesurées pour les 3 espèces sur lesquelles on a travaillé, l'aulne, le frêne et le mûrier. D'accord. Et on a également travaillé, donc on a pour 3 espèces, mais j'en présente que 2, parce qu'il y a eu un problème avec la 3e. Donc pour on a comparé donc les surfaces estimées à des surfaces mesurées sur des arbres entiers. On a obtenu un taux d'erreur de 14% pour l'aulne et 27% pour le mûrier, ce qui n'était pas si mal parce que c'était en août. Les feuilles du mûrier étaient vraiment recroquevillées. Et surtout, la méthode présente encore de nombreuses perspectives d'amélioration. Voilà, donc en conclusion perspective. Donc concernant la valeur alimentaire des feuilles, donc il y a déjà une grosse base de données à valoriser. Le travail, travail bibliographique qui a été fait sur les tanins a permis de mettre en évidence que dans les feuilles de ligneux, il y a des tanins hydrolysés qu'on n'a pas l'habitude de doser dans les fourrages classiques. Et de ce fait, ça n'a pas été fait pour les feuilles qui ont été analysées, pour les 50 espèces qui ont été analysées. Donc ça a été un travail à mettre en place prochainement. Et ces tanins en fait, hydrolysables, ils peuvent avoir des effets positifs, mais ils peuvent aussi avoir des effets délétères. Donc c'est vraiment important de connaître la composition des feuilles de ligneux avant de promouvoir, enfin de comment de comment ouais voilà c'est ça de diffuser certaines espèces de ensuite les vaches elles pâturent aussi les jeunes branches et l'écorce dont on connaît pas la composition chimique, donc c'est à faire également. Et il va falloir aussi définir la place que ces fourrages ligneux peuvent prendre dans la ration alimentaire. Sur la synthèse, sur donc la synthèse bibliographique sur les tanins, là c'est plus les résultats. Donc finalement, il ressort que ces tanins vont avoir un effet, des effets environnementaux, donc sur les émissions de méthane, donc plutôt des effets positifs. En diminuant les émissions de méthane, les émissions de protoxyde d'azote et la lixiviation d'azote, et vont avoir un effet sur la qualité du sol. Et ils ont également un effet sur les performances animales, un effet donc sur les parasites, la météorisation, la prise de poils, la qualité, la production du lait et les performances reproductives. Voilà, c'est un travail à continuer, puisque en fait il y a une grande diversité de composés secondaires et ils peuvent avoir des effets positifs ou négatifs. Et en fonction de la structure, de la concentration de l'animal considéré et du régime alimentaire. Concernant la quantification de la biomasse foliaire, il va falloir adapter le logiciel TrainAlyzer aux arbres têtards. Et l'objectif, c'est de pouvoir déterminer un LER. Avec les arbres, les lignes agroforestières, voilà, dans une parcelle.
J'avais noté plein de questions, tu as répondu. Prématurément, j'avais noté des questions qui sont traitées ici. Donc, effectivement, peut-être en apport complémentaire, nous, on s'interroge beaucoup effectivement sur le rameau, le jeune rameau brouté. Qui est conséquent, y compris en masse, et sans doute très différent de la masse de la feuille dans sa composition, donc qui influe très fortement probablement les digestats notamment. Donc c'est très intéressant que vous puissiez aller par la suite sur cette étude-là. J'avais la productivité, donc tu as répondu aussi, comprendre la productivité de cette matière fourragère, y compris dans la constitution. Sur du laitier, c'est peut-être assez simple, peut-être plus difficile sur de l'allaitant, sur de la production de viande, mais le quantitatif, mais la qualité aussi du lait par rapport à l'apport empiriquement, où on parle souvent des herbages alpins qui ont une conséquence très importante sur la nature et la qualité du lait qui va permettre une certaine diversité de production. J'imagine qu'il y a une conséquence aussi organoleptique de la consommation fourragère d'arbres sur le lait et a fortiori sur la viande d'ailleurs. Donc est-ce que vous allez aller jusqu'à cette composante?
Oui, pour l'instant, j'ai pas trouvé de référence biblio qui parle d'effet de pâturage de ligneux sur les qualités organoleptiques du lait. Voilà. Donc, mais effectivement, ouais, mais oui.
Puis une dernière chose, oui, au niveau des rations, est-ce que dans les expérimentations que vous menez, vous partez du principe, avec les connaissances que vous avez établies maintenant de la qualité fourragère du feuillage, qu'il faut le substanter aux rations traditionnelles, ou est-ce que pour l'instant c'est un plus, et donc qui biaise quelque part, qui peut biaiser quelque part quelques résultats, notamment justement sur cette fameuse productivité. Parce que nous, pour l'instant, on fait quelques expérimentations absolument pas ni calculées ni rien. C'est toujours un plus. On modifie en rien la nature de la ration, le pâturage tourne en dynamique et la qualité, mais on leur apporte des branches de temps en temps, on voit qu'elles sont très gourmandes, que c'est intéressant, on mesure à l'œil globalement qu'elles ont moins consommé la prairie, donc on dit tiens, on a gagné un jour ou deux sur notre rotation, on en est vraiment là. Mais du coup, ça serait sans doute intéressant de le substituer à une rationalité pour voir si le résultat est différent à l'arrivée. Est-ce que vous êtes sur ces dynamiques ou...
Alors, ça devrait être fait, mais dans 2 ans. Normalement, enfin, sur le projet Oasis, là, voilà, les arbres sont encore trop jeunes. Donc, on n'a pas commencé. Là, on a juste la composition chimique et l'effet, effectivement, sur la qualité de la viande ou du lait, ce ne sera pas avant 2 ans. Enfin, du lait, en l'occurrence, pour Oasis.
J'avais juste une remarque justement sur sur la qualité du lait. J'avais juste une remarque, c'est la qualité organoleptique du lait, mais aussi la qualité industrielle, c'est-à-dire derrière quels produits on peut faire avec ce type de lait, est-ce qu'il y a une différenciation possible, etc. Et à quelles conditions, avec quelle quantité de fourrage, etc.
Oui, ben là c'est
Parce
pareil.
Qu'en ce moment, dans le secteur laitier, on parle beaucoup de segmentation de marché. avec cette idée de niche en fonction du type de fourrage apporté. Donc ça, c'est vrai que voilà, ça peut être assez intéressant de creuser jusque-là.
Moi, j'avais une question bête. Dans le graphique que tu présentais sur la digestibilité, la teneur en azote, il y avait une espèce dont tu n'as pas parlé, peut-être que tu n'as pas cité, qui était super bien, complètement meilleure que les autres et tout. C'est quoi le grenat?
Ouais, j'en ai pas parlé exprès parce qu'on a assez juste, on n'a qu'une répétition en fait pour cette espèce.
Donc c'est voilà. Peut-être juste un point.
Ouais, j'aurais dû l'enlever. Voilà, j'aurais dû l'enlever.
D'accord.
Comme elle était écrite en tout petit, j'espérais que ça passerait inaperçu. C'était le grenadier.
Et sinon, quand vous avez fait vos études justement sur ça, vous avez regardé l'effet du temps dans l'année, l'effet du trogne ou pas trogne. Est-ce que vous avez regardé l'effet de l'âge de l'arbre et
non.
Donc l'évolution sur le vraiment long terme là de ces qualités.
Non, on n'a pas regardé l'effet de l'âge de l'arbre.
J'ai le temps pour une dernière question ou pas? Oui. Et si pour l'aspect bien-être animal, santé animale et l'automédication en fait que les animaux pourraient faire en choisissant ce qu'ils mangent, ça veut dire que quand même à un moment donné, il faut que l'animal ait le choix entre plein d'espèces différentes pour pouvoir choisir ce qui lui convient à ce moment-là. Mais ça veut dire quand même qu'en termes de gestion, c'est hyper compliqué pour l'agriculteur. C'est-à-dire qu'il y a de tout partout, accessible tout le temps. Enfin, en termes de design du système, ça introduit énormément de possibilités, mais aussi de contraintes. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à ça?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de contraintes finalement. ceux qui ont mis en place le système, donc c'était avant mon arrivée, pourraient peut-être apporter de meilleures réponses. Mais si tu mets dans ta parcelle plusieurs espèces, finalement les animaux vont aller vers celles qu'ils ont envie de pâturer. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une contrainte. Est-ce que finalement mettre plusieurs espèces, est-ce que c'est plus compliqué que de faire du monospécifique? Je ne sais pas. Comment? Oui, alors en l'occurrence sur Oasis, on teste plusieurs espèces, mais ces espèces elles sont implantées en série de 7. Donc après on pourra peut-être moduler de façon à ce qu'elles ne pâturent qu'une seule espèce à la fois pour voir l'effet des différentes espèces, effectivement. Ouais.
Alors, je vais passer le micro pour les questions. Juste un mot, si Stéphanie est passée en dernière, c'est que cet après-midi, on va visiter justement toutes les installations expérimentales sur le terrain. Donc, vous aurez aussi la possibilité de poser plein de questions et vous allez voir des choses incroyables, quoi, hein, le tronioscope, les pergolas fourragères, enfin des choses. Voilà.
Moi, j'aurais voulu savoir, là, on regarde la qualité nutritionnelle de la plante. Mais finalement, est-ce qu'on a laissé les vaches choisir? C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait une expérience où finalement on lui propose des feuilles de mûrier, de chêne, de frêne, et finalement de savoir si finalement la vache allait choisir toujours la même espèce, l'appétence qu'elle pourrait avoir?
Non, l'appétence n'a pas été testée.
Réelle,
Non, les espèces, elles ont été choisies aussi en fonction de leur aptitude à la résistance aux aléas climatiques. Et aussi en sachant que les animaux, enfin que les vaches les pâturent. Voilà.
Un premier mot, c'est bravo parce que c'était attendu d'une partie du monde agricole ce type de suivi d'expérimentation. Justement, du monde agricole, l'unité qu'on retient, c'est l'unité fourragère. Donc je me demandais si c'était prévu de transcrire le taux de matière azotée, la digestibilité en unité fourragère, parce que on revient sur les tables agricoles, hein, c'est ce que comparent les agriculteurs. Et aussi, une petite attention sur ces recherches, c'est la communication qu'on va en faire par la suite, lorsqu'on en a résultat. Une exploitation avec 100 vaches laitières, voilà. Après, faudra savoir équilibrer un peu le discours sur l'utilisation, sur l'affouragement des animaux avec des arbres fourragés, hein, puisque dans des systèmes à forte production, à fort besoin de fourrage, il faudra adapter le discours. Donc méfiance là-dessus, grande méfiance en tout cas, de ma part.
merci déjà pour eux. Oui, oui je voulais juste savoir si dans le cadre de l'étude pour le test sur les 50 essences, est-ce que vous avez eu accès avec une biblio sur des anciennes pratiques, par exemple au niveau agriculture, au pâturage, de l'usage déjà d'arbres, l'association d'arbres dans le pâturage à travers les siècles passés, qui auraient pu laisser quelques traces.
On sait que les frênes têtards étaient utilisés pour l'alimentation effectivement complémentaire en fait des bovins, que le mûrier également était utilisé pour cela. Voilà. Après, il y a beaucoup de documents sur tous les fourrages ligneux dans les pays du Sud, mais qu'on n'a pas ici. Voilà.
Bonjour. Donc je rejoins Jean-Charles sur l'intérêt qu'a suscité vos travaux chez les éleveurs. Donc félicitations pour ça. Je tiens aussi par rapport aux questions précédentes. Je crois qu'il y a des Belges qui ont suivi, qui ont fait pâturer des haies, donc et qui ont suivi du coup les différentes essences qui étaient préférées par les bovins, et des Belges et des Suisses qui ont suivi aussi les effets antiparasitaires, puisque en Suisse ils ont donné du noyer, du châtaignier à des troupeaux de caprins, et qu'ils ont pu observer des baisses significatives de parasites intestinaux. J'avais une toute petite question, j'ai pas compris comment vous avez mesuré la productivité fourragère des têtards. Qu'est-ce qui a été mesuré, qu'est-ce qui a été estimé? Et tree analyzer, c'était le mesurer, c'était l'estimer?
D'accord. Donc on n'a pas fait sur les têtards, on a fait sur des arbres de Auger. Avec Trianalyzer, on a obtenu donc des surfaces estimées inférieures aux surfaces mesurées. Elles sont en rouge et les surfaces mesurées sont en orange.
Donc voilà. Mesurées, vous avez fait, vous avez coupé, vous avez fait avec une règle.
Alors on a récupéré les feuilles une à une, la totalité de l'arbre. On a pesé et ensuite on a récupéré un tiers de ce qu'on avait prélevé, qu'on a scanné et on a estimé sous imagie en fait la surface première.
Et le trianalyzer qu'on pourrait corriger, c'est quelque chose auquel on pourrait avoir accès ou...
Alors trianalyzer, c'est un logiciel qui est en libre accès sur le site de l'UMR PIAF, parce qu'il a été développé là-bas. C'était Hervé Sinoquet qui l'a développé au début des années 2000. Et voilà, en fait, il a été très peu utilisé et pourtant, c'est un super logiciel. Et ce qui joue énormément sur la fiabilité des résultats, c'est l'acquisition des photos. Le protocole d'acquisition des photos, il faut être vraiment précis. Et puis, il y a un certain nombre de paramètres à rentrer dans ce logiciel. Donc, l'inclinaison des feuilles, la distance de l'appareil à l'arbre, la surface moyenne d'une feuille, qui sont à renseigner dans le logiciel. Et là aussi... l'inclinaison des feuilles, par exemple, faut la mesurer. Donc, mais c'est quand même assez rapide. C'est vraiment assez rapide. En fait, on fait vraiment les 8 photos. Donc, faut que l'arbre soit bien centré sur les photos. Ensuite, on rentre. Donc, faut binariser. Pardon. Faut les ces photos. On les met en noir et blanc. Ensuite, le logiciel les analyse. C'est très rapide. En 10 minutes, en fait, c'est fait. On a une estimation de la surface première. Voilà. C'est plus l'acquisition des photos qui est un peu l'étape limitante.
Oui, je vais aller vite. Merci pour cette présentation et ces recherches qui sont vraiment passionnantes et qui, je trouve, déplacent toute une série de choses d'un point de vue des imaginaires, justement. J'avais une remarque et deux petites questions en termes de perspective de recherche. La remarque, c'était un peu en réponse à la question des sources des anciennes pratiques. Je me dis peut-être qu'il y a une littérature qui n'est pas explorée de ce point de vue, c'est toute la littérature de l'ethnobotanique, puisque je pense notamment au travail de Pierre Lyotagui qui référence dans ses ouvrages des pratiques fourragères anciennes. Il y aura peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là, et chez d'autres ethnobotanistes moins connus aussi, et sur d'autres territoires. Et les deux questions en termes de perspective de recherche, je me demandais si, je pense aux travaux de Hughes et Van Oven sur là c'est vraiment de la zoologie, sur l'évolution des taux de tanin des acacias face au broutage des antilopes. Je me demandais si vous aviez prévu de quantifier ça aussi, s'il y a une réaction des arbres face au face au broutage et avec des augmentations de taux de tanin qui les rendraient moins digestes. Et la deuxième question, qui est aussi une question un peu d'évolution de réaction, c'était sur l'évolution des communautés microbiennes. Est-ce que face à, à certains fourrages, il pouvait y avoir une amélioration de la digestibilité au fur et à mesure de ces apports, si les communautés microbiennes du rumen, par exemple, pouvaient se modifier pour rendre ces fourrages plus digestes. Voilà.
Oui, alors on sait que, notamment dû à la présence des composés secondaires, en fait, on a un fort effet des fourrages ligneux sur la composition microbienne du rumen. Ça, il y a de la biblio là-dessus. Donc après, je ne sais pas si le fait que... là, par contre, je n'ai pas d'informations sur le long terme. Ensuite, ta première question, c'était sur le... Oui, voilà. Oui. Oui, effectivement, ce serait intéressant de mesurer ça. Pour l'instant, moi, j'ai pas d'idée. J'avais vu ces travaux. Ouais.
Oui, plus une remarque. Alors, on est tout fouillé, on attend avec impatience la continuité des résultats parce que ça, nous, on va s'en servir, crois-moi, sur les éleveurs. Et puis, pour rebondir sur ce que disaient Antoine et Aurélien, aller chercher de la littérature primordiale, je ne mets pas du tout ça en doute, mais notre société rurale était aussi sur l'oralité et elle n'a pas disparu. Dans nos bocages, les vaches continuent de bouffer les haies régulièrement. On le voit très bien dans la structure paysagère, les étêtes, les arbres par le bas. Elles consomment toutes les excroissances de printemps. Les clôtures sont rarement déportées largement, voire chez les moutonniers, elles sont à l'intérieur des haies. Et eux, ils ont un savoir de l'appétence. Ils sont capables, avec un questionnaire relativement exhaustif, on a cherché, en premier, quand je les mets dans le champ, elles sautent sur cet arbre d'abord. Elles vont aller chercher ça, puis après, etc. Donc, on peut aller chercher une information sans doute très fiable sur l'appétence, sur le rôle qu'elle a et comment elle va chercher dans sa journée de déplacement un certain nombre de ligneux au travers de son broutage de la prairie, par l'expérimentation et l'expérience et le regard des exploitants agricoles, qui, à mon avis, est vraiment primordial et très intéressant. Merci.
Bien, merci beaucoup, Stéphanie. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça va continuer cet après-midi, vraiment sur le même sujet. Vous verrez trois installations très différentes qui vont être animées par Sandra, Samuel de Promé et moi-même, qui avons un peu tous contribué à différentes échelles donc à ce dispositif. Et oui, tu veux dire quelque chose ? Je crois qu'il y a quelqu'un. Oui, j'allais y venir. Donc, du coup, là, on va aller manger. Et après, il faut aller à l'INRA, mais sur le domaine des verrines. Donc, ce n'est pas le domaine qui est juste en face. Il faut ressortir, tourner à gauche. Il y a 3 km à peu près. 5 km jusqu'à l'embranchement. 4 km jusqu'à l'embranchement. Ouais, voilà. Mais je dis ça aussi pour les voitures. Donc, on va direction Lusignan, mais avant le rond-point, sur la droite, vous verrez une indication pour aller sur donc le domaine Les Verrines. Vous prenez cette route et puis après, à un moment, c'est un embranchement sur la gauche, mais c'est bien indiqué. Par contre, donc pour ceux qui n'ont pas de voiture ou qui voudraient laisser leur voiture ici, on ne sait jamais, mais